Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de notre parcours et c'est un peu le retour à la case départ. Vous vous souvenez que dans la première conférence de Jacques de Monléon, il avait présenté toutes les difficultés que la réalité de la liberté pouvait soulever pour des philosophes. Et il avait présenté deux tendances opposées dans le monde de la philosophie à l'égard de la liberté. Nous allons retrouver cela aujourd'hui, nous allons retrouver les mêmes questions, mais enrichies par une analyse de la liberté comme acte humain. C'était la deuxième soirée. Ou comme réalité politique, c'était ce que nous avons travaillé la fois passée. La liberté, au point de vue éthique, deuxième conférence, c'est le choix. Alors on a analysé les éléments qui entraient dans le choix. Et au point de vue politique, j'ai insisté, écrit Jacques de Monléon, sur l'idée que la société politique est le milieu par excellence de la liberté éthique, c'est-à-dire de l'acte de choix, de l'homme qui doit choisir et qui doit choisir bien, hein, qui doit effectuer dans les meilleures conditions son acte de choix. Et nous avions laissé en retrait le problème fondamental soulevé pendant la première le premier exposé, c'est-à-dire celui des éléments essentiels de tout acte libre et des questions que cela pouvait poser pour les philosophes qui se sont situés de manière opposée les uns aux autres. Je pense que à la fin de ce parcours, on va voir je pense la portée spirituelle de l'enseignement de la philosophie. Sauf quelques lignes à la fin de l'exposé, où on s'en tient au domaine de la philosophie, on ne fait pas de théologie, mais on montre bien qu'on réfléchit de cette manière à la condition humaine et qu'on l'éclaire pour bien l'orienter. Choisir, c'est l'acte de la liberté, et cela suppose toujours une certaine indifférence, c'est-à-dire la capacité de se porter vers ceci ou vers cela. Et cette alternative du choix suppose une absence de cause au sens où il n'y a pas de cause produisant nécessairement son effet, ou encore, dit Jacques de Monléon, on a célébré Saint-Joseph, donc je vais peut-être faire la faute ce soir, une absence de raison pleinement déterminante. Un choix, c'est motivé, ça a une raison, mais cette raison n'est pas pleinement déterminante. Si c'était le cas, on ne serait pas devant la liberté. Alors, la raison déterminante d'un acte libre, c'est le motif. Bon, c'est-à-dire que lorsque je choisis ceci ou cela, finalement, je me suis déterminé. Et je me suis déterminé en raison d'un motif. Tout acte libre est un acte motivé. Tout acte libre, tout acte donc proprement humain, est un acte motivé. Alors, le motif lui-même n'est n'est pas tout à fait déterminant parce que on aurait pu se porter sur une autre réalité dans le choix que l'on pose. Et donc, il y a une certaine indifférence. J'aurais pu faire autre chose pour une autre raison que ce que j'ai choisi de faire. Le motif n'est pas absolument déterminant. Il n'y aurait plus de liberté. Mais bien sûr, une fois que le choix est posé, alors le motif devient déterminant. Hein, et je fais ce que j'ai choisi de faire. Alors c'est là qu'il y a une difficulté devant l'indifférence du choix, devant le fait que la cause n'est pas une cause qui produit nécessairement son effet. Comment est-ce que le philosophe, qui essaie d'expliquer par des causes, va pouvoir rendre compte du choix? Alors, il y a deux positions contraires qu'on a déjà examinées. L'une que Jacques de Montléon appelle rationaliste, la première, et puis la seconde qu'il appelle volontariste. Donc l'une qui va, la première, insister sur l'élément de raisonner dans le choix et qui va présenter cet élément raisonné comme... Un élément raisonné, voilà, y a un petit fond sonore que nous n'avons pas choisi. Voilà. Donc, un acte raisonné et dans la perspective rationaliste, on va penser la raison comme une cause absolument déterminante. Et dans ce cas, nous sommes face à une situation que Jacques de Montléon compare à celle d'un baobab, pour tenir le terme. Hein. Le baobab, c'est l'arbre qui grandit, qui grandit beaucoup. Hein. Je pense qu'un baobab, ça peut avoir une taille assez considérable, mais qui grandit spontanément à partir de la nature. Qui est la sienne. Eh bien, un choix, dans ce cas-là, n'est pas pensé comme procédant d'une certaine indifférence, d'une certaine indétermination, mais le choix sera libre lorsqu'il sera absolument spontané. La liberté, je lis Jacques de Montléon, c'est tout simplement une spontanéité qui se développe d'une façon nécessaire. Je suis ce que je suis et je suis libre dans la mesure où j'agis spontanément en fonction de l'être qui est le mien. Je suis libre dans la mesure où rien ne vient s'opposer à bon, cet élan spontané qui est mien. Courant rationaliste, dont un des représentants est Spinoza. Puis la deuxième position, c'est la deuxième position est la position appelée volontariste. Dans cette position, on valorise beaucoup le libre arbitre, pas la liberté, comme on l'a vu tout à l'heure, entendue comme un élan spontané, à quoi rien ne vient s'opposer, mais le libre arbitre est, je dirais, un libre arbitre qui n'a d'autre fondement que lui-même. L'acte libre est un acte qui jaillit, dans ce cas, sans motif, sans raison. Alors on avait le baobab dans la première position. Ici, on a l'acte libre pensé comme un coup de force. Je me décide sans justifier ma décision par aucune raison. Les raisons qu'on peut donner, elles ne viennent qu'après coup. L'acte libre a jailli de la spontanéité pure, de la volonté libre. Et c'est ce qui fait la valeur particulière de l'acte libre. Si ces deux positions, la rationaliste et la volontariste, s'opposent, elles ont cependant un principe commun. C'est celui d'une indifférence foncière de la volonté. Les uns disent indifférence foncière de la réalité, c'est pas possible. À l'origine de l'acte, il y a la nature même de l'être et l'acte est libre dans la mesure où il est l'expression de cette nature et que rien ne vient s'opposer à son élan naturel. Les autres disent le libre arbitre, non seulement ça existe, mais c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Engagement dans la nuit, sans raison. C'est vraiment l'engagement total et absolu. Alors on va voir pour la deuxième position qui semble un peu étrange, hein, comment valoriser cet acte, cet engagement dans la nuit sans raison. On va voir comment c'est possible. Mais en tout cas, si on a deux positions. Dans les deux cas, elle postule que l'acte libre, c'est enfin, que le choix repose sur une indifférence foncière de la volonté. Dans un cas, on dit cette indifférence foncière, ça n'existe pas. Il y a une liberté, mais cette liberté, c'est la spontanéité de l'être qui ne rencontre pas d'obstacle, mais il n'y a pas vraiment de choix. Et dans le deuxième cas, on dit ici, il y a un choix. Et ce choix, c'est la réalité, encore une fois, la plus fondamentale de l'être humain. Alors, selon Jacques de Montléon, tant les rationalistes, première position, que les volontaristes, deuxième position, ont raison lorsqu'ils définissent l'acte libre. Lorsqu'ils disent, pardon, de l'acte libre, qu'il doit avoir une raison suffisante. Et donc, il faut chercher quelle va être la raison suffisante de l'acte libre. Alors que l'expérience montre qu'un acte de libre arbitre suppose une indifférence de la volonté. Dire que l'indifférence de la volonté serait liée à une absence de raison suffisante, c'est réduire en fait la liberté au pouvoir qu'elle a, de prendre du recul, de prendre de la distance, à l'égard de tout ce qui pourrait déterminer le choix. C'est caractériser et réduire la liberté, non seulement la caractériser, mais réduire la liberté à cette indifférence. Une indifférence qui est illusoire pour les rationalistes, hein. Il y a liberté, mais il n'y a pas indifférence, et donc il n'y a pas vraiment libre arbitre et choix. Une indifférence qui est réelle pour les volontaristes. Alors, essayons de voir ce qu'il y a derrière cette indifférence. Tout d'abord, dans la position volontariste, et même c'est chez les volontaristes qu'on va essayer de comprendre sur quoi est fondée la différence, puisque eux tiennent qu'il y a une différence, hein, alors que les rationalistes disent qu'il n'y a pas vraiment une différence dans l'acte. Alors, Jacques de Molay, on fait un peu d'histoire de la philosophie ici en expliquant la position de Sartre à partir d'une position plus ancienne, Sartre, un philosophe du XXe siècle, à partir d'une position plus ancienne qui est celle de Descartes, philosophe du XVIIe. Et il nous dit que ce que Descartes pense de Dieu, Sartre le pense de l'homme. Qu'est-ce que Descartes pense de Dieu? Il fait de Dieu un pur volontariste. Dieu peut faire toutes les choses. Il peut agir même de manière contraire à la raison, et donc contraire à ce qui nous apparaît comme le bien. Il est complètement Dieu indépendant de toute raison et de toute exigence rationnelle. En cette position de la toute-puissance de Dieu qui pourrait s'exercer contrairement à ce qui nous apparaît comme le vrai et le bien, c'est une position qui s'enracine dans ce qu'on appelle au Moyen Âge le nominalisme. Et c'est la volonté de Dieu ainsi comprise qui va descendre du ciel sur terre en l'homme. Longue citation de Jean-Paul Sartre, qui va nous permettre de bien comprendre ce qu'il met sous le terme de liberté de choix, et comment cette liberté de choix, supposant l'indifférence, est le fond même de la réalité humaine. Je lis Sartre. On reconnaîtra dans ce pouvoir de s'échapper, de se dégager, de se retirer en arrière. Voilà les termes qui caractériseraient le plus fondamentalement la liberté. Comme une préfiguration de la négativité hégélienne, donc Hegel c'est 19e siècle, mais ici on parle du doute cartésien, hein, qui préfigurerait ce qu'au 19e siècle, Hegel dit de la négativité. Le doute cartésien atteint toutes les propositions qui affirment quelque chose en dehors de notre pensée. C'est-à-dire que je puis mettre tous les existants entre parenthèses. Effectivement, dans les méditations de Descartes, on pose l'hypothèse qu'un malin génie pourrait nous faire croire en l'existence de la réalité, mais d'une réalité extramentale, hors de notre pensée. Mais après tout, dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'il s'agit là d'une illusion. Ce qu'on ne peut finalement pas mettre en cause, c'est la pensée elle-même. Et donc, je pense, donc je suis. Alors, le doute cartésien, c'est un doute donc qui porte sur l'existence même d'une réalité hors de ma pensée. C'est-à-dire que je puis mettre, je reprends la lecture, tous les existants entre parenthèses. Je peux mettre en doute l'existence de la réalité. Peut-être tort de le faire. Peut-être que cette réalité, elle existe et Descartes va la rétablir, hein, ensuite. Mais en tout cas, j'ai le pouvoir de mettre entre parenthèses la réalité extérieure. Je suis en plein exercice de ma liberté lorsque, vide et néant moi-même, je néantise tout ce qui existe. Alors ça, c'est Sartre qui reprend la parole. Hein? Je néantise tout ce qui existe, hein? J'ai la capacité de mettre entre parenthèses l'existence même de tout ce qui m'est extérieur. Et je suis moi-même vide et néant. connaissez le titre de l'ouvrage de Sartre, L'être et le néant. Je suis en plein exercice de ma liberté lorsque, vide et néant moi-même, je néantise tout ce qui existe. Le doute est rupture de contact avec l'être, hein, puisqu'il met en cause l'être même. Par lui, l'homme a la possibilité permanente de se désengluer de l'univers existant, très sartrien. Donc, quand il parle de la nausée, hein, c'est ce sentiment, hein, d'une réalité qui vient comme de la glu. Hein, eh bien, le doute est la possibilité permanente de se désengluer de l'univers existant et de le contempler soudain de haut, comme une pure succession de fantasmes. En ce sens, c'est la plus magnifique affirmation du règne humain. L'hypothèse du malin génie, elle montre que l'homme peut échapper à toutes les tromperies, à toutes les embûches. Il y a un ordre du vrai parce que l'homme est libre. Si même cet ordre n'existait pas, il suffirait que l'homme fût libre pour qu'il n'y ait jamais d'erreur. Hein, puisqu'effectivement, c'est sur le doute, l'hypothèse du doute, que Descartes fonde sa recherche philosophique et qu'il obtient finalement une vérité fondamentale. L'homme étant cette négation pure, cette pure suspension de jugement, peut, à condition de rester immobile comme quelqu'un qui retient son souffle, donc de s'en tenir à cette suspension de jugement, ce qui n'est pas le cas chez Descartes, mais ce qui sera, puisque Descartes, à partir de là, va prouver l'existence de Dieu, hein, mais chez Sartre, donc, l'homme, s'il se maintient dans cet état de suspension à l'égard de la réalité extérieure, il peut se retirer à tout moment d'une nature fausse et truquée. Il peut se retirer de tout ce qui en lui est nature, de sa mémoire, de son imagination, de son corps. Il peut se retirer du temps même, se réfugier dans l'éternité de l'instant. Rien ne montre mieux que l'homme n'est pas un être de nature, mais dans le moment qu'il atteint cette indépendance, inégalable contre la toute-puissance du malin génie, contre Dieu même, puisque l'existence de Dieu est entre parenthèses, lorsque l'hypothèse du doute est émise, l'homme se surprend comme un pur néant en face de l'être qui est tout entier mis entre parenthèses. Il ne reste plus qu'un simple nom, N-O-N, sans corps, sans souvenir, sans savoir, sans personne, et ces refus translucides de tout, c'est à travers eux qu'il s'atteint lui-même dans le cogito, comme témoigne ce passage, je doute donc je suis, ou je pense donc je suis. Et donc le doute, avec tout ce que ce doute implique, de négation, de toute raison, toute détermination, définit dans son fond même la pensée. Au fond, il y a un non, il y a une négativité radicale. Je peux m'arracher à tout en me repliant sur moi, sur ma capacité de dire non à tout ce qui est. Et donc, dans ce cas, la liberté, l'indifférence est fondée sur une conscience qui nie, sur la négativité de la conscience. La liberté, c'est la possibilité de dire non. Dans tout acte libre, nous disons toujours non. Alors, la position de Sartre est intéressante, selon Jacques de Montléon, en ce que elle est radicale et elle met bien en lumière pardon, ce qui fonde la racine d'une pensée, d'une position philosophique. On avait toujours cru, dit Jacques de Montléon, c'est-à-dire dans la philosophie des anciens, que l'esprit, intelligence ou volonté, était ordonné à l'être, était ordonné au vrai. On pensait l'esprit comme ordonné au bien. On pensait la volonté comme appétit du bien, comme élan de l'être vers le bien. On pensait que le vouloir foncier de la volonté, ça n'était pas, comme le prétend désormais Sartre, de dire non, de se refuser, mais au contraire, de consentir à l'être ou à ce qui paraît être un bien, et ensuite seulement de refuser ce qui est opposé à ce bien. En somme, l'acte fondamental de la volonté, de tout appétit, c'était, dans la pensée des anciens, l'amour. Alors que le fond de la volonté, de la liberté, chez Sartre, devient le non, la négation, le refus. Dans ce cas, l'acte du choix est l'acte d'une volonté devenue insensible au bien, puisque le propre de cette volonté, c'est de pouvoir dire non, de pouvoir se retirer de l'être et voilà, de toutes ses déterminations. L'acte de libre arbitre procède d'une volonté qui est dévitalisée à ce point de vue, puisqu'elle est réduite à l'état zéro de l'indifférence absolue. L'indifférence, selon ça, c'est la possibilité de se refuser à tout. Alors, y a-t-il une autre manière de fonder l'indifférence du libre arbitre à l'égard d'un motif déterminé? C'est le problème, hein. Y a-t-il un moyen de tenir l'indifférence rejetée par la position volontariste, mais de la fonder autrement, je dirais qu'en elle-même, autrement qu'en caractérisant la volonté par le refus, la négation. Alors, on va encore revenir un peu plus loin dans l'histoire de la philosophie à l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, c'est une hypothèse d'un philosophe qui s'appelait Buridan, un maître essart de l'université de Paris. Et vous savez, c'est cette histoire que vous connaissez d'un âne que l'on place entre deux bottes de foin, hein, qui ont le même volume, la même saveur, elles sont à la même distance de l'âne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hein, c'est-à-dire que l'âne n'a pas moins de motifs de s'orienter vers une botte de foin que vers une autre botte de foin. Donc, si on reste un logicien persuadé que la logique commande l'attitude de tous les êtres, y compris celle des ânes, ben, le pauvre âne, il va mourir de faim, puisqu'il ne sera pas. S'il faut s'orienter d'un côté comme de l'autre. Or, ça, c'est faux. C'est très bien que l'âne va finir par se jeter. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'âne, il est d'abord mu par le désir de vivre et de manger. Il est habité par l'intention de conserver sa vie. Ce que cette remarque de bon sens met en lumière, c'est que le vouloir, c'est un appétit foncier positif. qui se porte sur un bien réel. C'est une attitude de consentement et pas de refus. Sartre affirme que le rapport de la liberté au bien, c'est celui qu'entretient une puissance radicale de refus à l'égard du bien, donc qui rend indifférent à l'égard de tout. Et Jacques de Montlémont, rejoignant les affirmations les plus anciennes et les plus traditionnelles de la philosophie, dit que la volonté, c'est non pas une puissance radicale du refus qui donne l'être indifférent, mais c'est la capacité de tendre au bien, un bien que l'intelligence ou la raison propose à l'homme. Il montre la convenance ou l'intérêt de telle réalité avec le bien. La volonté ne peut rien vouloir que sous une raison de bien. Alors ici, raison est un terme de philosophie, hein, si vous voulez, sous l'aspect de bien, en tant qu'il se manifeste à nous comme bien, ou qu'il est plus exactement compris par nous comme étant un bien. Il arrive que nous voulions un mal. Mais de fait, cette volonté du mal, elle repose toujours sur une volonté plus foncière, qui est la volonté d'un bien. Je peux accepter une opération douloureuse, c'est le mal, mais en vue d'un bien, qui est celui de la guérison. Et voilà un discernement décisif. Ce lien nécessaire entre la volonté et le bien, c'est une nécessité qui n'est pas une nécessité aveugle, mais c'est une nécessité qui procède d'une certaine estimation, d'une certaine connaissance. C'est une nécessité qui n'est pas une nécessité contrainte, mais c'est une nécessité éclairée. Ce n'est donc pas cette nécessité pour la volonté d'être orienté vers le bien, une poussée aveugle comme celle du baobab, dans l'hypothèse volontariste, mais c'est une volonté liée à l'intelligence. Il faut que le sujet humain réfléchisse pour qu'il consente à tel ou tel bien. La volonté donne son consentement à un bien parce que elle est éclairée par l'intelligence. Alors l'intelligence peut se tromper, alors là c'est une illusion. Mais c'est toujours à la lumière de ce que l'intelligence lui montre que le sujet va s'orienter vers le bien. Lorsque vous comprenez que c'est ce qu'il faut faire, que vous agissez en conséquence, vous n'avez pas l'impression d'agir sous une contrainte, au contraire, mais d'agir dans la lumière de l'intelligence ou de la raison. Voilà, ça c'est un discernement décisif. D'autre part, ce lien nécessaire de la volonté avec le bien ouvre à l'infini, la volonté. Parce que la volonté est liée nécessairement au bien en tant que bien. C'est-à-dire que la volonté humaine, non seulement est liée au bien, mais au bien en tant que bien et donc à l'universalité du bien. C'est-à-dire est liée à tout ce qui peut se présenter comme un bien. je désire une chose parce qu'elle m'apparaît comme étant bonne. Et ma volonté n'est pas restreinte à telle ou telle catégorie particulière de biens, mais elle est ouverte au désir de toute forme de bien. De même que l'intelligence est ouverte sur l'universalité de l'être, la volonté est ouverte sur l'universalité du bien. Alors, il pourrait y avoir une difficulté en se disant, mais alors, est-ce qu'il s'agit de courir après une idée très, très générale, l'idée du bien? On va voir qu'il s'agit de tout à fait autre chose, que c'est s'orienter vers ce qu'il y a de plus réel et pas ce qu'il y a de plus abstrait. En tout cas, ce que nous observons, c'est que tout ce qui se présente à la volonté comme un bien, c'est-à-dire tout ce que l'intelligence peut présenter à la volonté comme bon, tout cela peut faire l'objet d'un consentement et donc d'un choix. Lorsque le choix se porte sur une chose limitée, une chose finie, cette chose limitée, cette chose finie, c'est un bien, mais c'est un bien partiel. C'est une réalité qui a ses bons côtés, puis peut-être aussi, de par ce qu'elle est, de par ce que je suis, ses mauvais côtés pour moi, en tout cas ses limites. Elle laisse en dehors d'elle d'autres perfections qu'elle ne possède pas. Elle a une ou deux perfections, mais il y en a d'autres qu'elle n'a pas. Et lorsque je la regarde en tant qu'elle est imparfaite, alors il peut y avoir disconvenance entre moi et elle, et donc je peux me détourner d'elle. Donc, il y a bien une certaine indifférence de la volonté qui fonde le choix. C'est-à-dire que la volonté n'est pas nécessairement liée à tel ou tel bien fini. Parce qu'elle est liée qu'au bien total, qu'au bien universel. Et donc, elle peut toujours refuser un bien qui n'est qu'un bien partiel. Elle peut toujours dire non. En tout cas, toujours, je dirais, dans l'absolu. Hein, parce que notre volonté, c'est jamais une volonté pure, abstraite, mais c'est une volonté qui, toujours déjà, est conditionnée. Hein, et qui peut se porter quasi nécessairement vers telle ou telle forme de bien. Je pense. On pourra en parler aux diverses formes d'addiction. Mais fondamentalement, la volonté n'est liée par aucun type de bien fini, limité. Ainsi, la liberté et l'indifférence qu'elle suppose ne se fondent pas du tout sur le non radical, comme chez Sartre, mais au contraire, la liberté se fonde sur l'attachement de la volonté au bien, mais au bien comme tel, au bien sans limite, au bien universel. Tout ce que je le veux en tant qu'il est, que cela est bon, que cela m'apparaît bon. Et tout ce qui est bon, ben, je peux le vouloir, je peux y consentir. Mais dès que le bien qui m'apparaît n'est pas un bien total, illimité, il y a possibilité de se détourner de ce bien, de le refuser. avant-dernière étape. Qu'est-ce qui est au principe de la décision libre? C'est à la page 32. La partie intitulée Le principe de la décision. Dans toute décision libre, intervient un motif. Et intervient un motif prochain, c'est-à-dire je veux quelque chose en raison de telle autre chose. Hein? J'ai pris le métro parce que je voulais me rendre à la conférence. Un motif, donc, c'est une raison d'agir. Et le motif prochain de notre choix, est-ce que c'est un motif absolument déterminant du choix? Non. La volonté ne peut jamais être nécessitée à vouloir une chose parce qu'il y a toujours des principes d'imperfection dans une chose finie. Il y a un aspect de bien, mais aussi des aspects de déficience et de mal. La volonté ne peut jamais être nécessitée à vouloir une chose finie. Et le motif prochain correspond toujours à une réalité finie. Donc, tout motif d'agir est insuffisant et il doit être reconnu comme tel. Hein, je suis pas tenu de venir à la conférence ou même si j'y étais, pardon, obligé d'une manière ou d'une autre, je peux toujours me soustraire à ce choix. Il n'est pas absolument déterminant. Et le motif prochain reste insuffisant, c'est-à-dire que il n'a pas comme conséquence nécessaire le choix jusqu'au moment de la décision. À partir du moment où la décision est prise, le motif devient déterminant de l'agir. Donc, c'est peut-être un peu subtil ici, mais Joseph, Jacques de Monléon, Jacques de Monléon s'oppose à une théorie selon laquelle finalement il suffirait d'accumuler les bonnes raisons pour aboutir à un choix devenu nécessaire. Non, jusqu'à la fin, le motif suffisant, c'est-à-dire le motif devenu suffisant une fois que le choix est posé, est insuffisant. À partir du moment où effectivement j'ai fait mon choix, j'ai fait mon choix. Hein, donc le motif est suivi de l'acte. Mais jusqu'au moment du choix, les motifs, sont insuffisants au sens où ils n'entraînent pas nécessairement le choix et l'acte résultant du choix. C'est-à-dire que ce n'est jamais un motif prochain qui peut être un motif suffisant d'agir. Ça n'est jamais un motif prochain qui va devenir un motif suffisant d'agir. Alors, si le motif prochain n'est pas un motif suffisant d'agir, quelle va être la raison suffisante du choix? Est-ce que, on n'est pas obligé de rejoindre Sartre quand il dit que, au fond, de la liberté, il y a une indifférence absolue. Quelle est en définitive la raison déterminante de l'acte libre? Tout d'abord, la volonté fait remarquer Jacques de Montlignon, n'est jamais dans un état de totale suspension indifférente. Hein, c'est ce cas d'école d'une liberté totalement indifférente, ça n'existe pas dans la réalité. C'est une imagination qui ne correspond à rien de réel. Même si dans tel roman, je pense à Gide, on peut mettre en scène ou en récit des personnes qui, à un moment donné, semblent choisir sans aucune raison, hein, sans aucun motif. Mais en fait, une volonté, concrètement, est toujours une volonté déjà orienté. C'est-à-dire une volonté déjà orientée par l'intention de rechercher tel ou tel bien. Et l'intention n'est pas soumise à délibération. C'est-à-dire que ma volonté, elle est orientée vers un bien, et c'est ce que j'appelle l'intention, et je ne délibère pas sur cette intention. Alors, il faudra préciser ça, parce qu'en fait, on peut délibérer même des intentions. Je vais préciser tout à l'heure Jacques de Montlignon, mais dans une première approche, on peut dire que sur quoi je délibère, ça n'est pas la fin, la finalité vers laquelle est orientée mon intention, mais c'est un moyen. Par exemple, le médecin ne délibère pas s'il doit soigner, heureusement. Hein, si vous rencontrez un médecin, il faut espérer qu'il n'est pas en train de se demander s'il va vous soigner ou pas. Ça, c'est son intention de vous soigner. Ensuite, il va réfléchir au meilleur moyen de le faire. Comme le général, il faut espérer que son intention soit de gagner la bataille, qu'il s'interroge pas sur, qu'il ne délibère pas sur son intention. Le choix porte sur les moyens. Il suppose intention de la fin. Hein, ça, c'est l'expérience la plus immédiate que l'on peut faire du comportement humain. Hein, à une personne fixée dans son intention, mais qui délibère sur les moyens. L'acte libre n'est pas le premier acte que pose la volonté. Le premier acte que pose la volonté, de manière très générale et aussi dans les cas concrets, le premier acte que pose la volonté, c'est de s'attacher, c'est de vouloir tel ou tel bien. Et en définitive, c'est de vouloir le bien comme tel. Ce qui soutient notre agir, c'est toujours l'intention d'une fin. Donc tout ne commence pas par la liberté, par le choix. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental dans l'être humain, mais c'est non pas donc le choix, mais l'intention d'une fin. Avec l'intention de la fin, les choses se précisent, l'agir s'oriente, et donc on peut dire que le choix est déterminé. Non pas par l'objet sur lequel il se porte, mais par l'intention qui le porte, je dirais. Je choisis de prendre le métro plutôt que de venir en voiture, ça c'est un choix que je pose, mais le choix n'est pas lié par l'objet sur lequel il se porte, mais il est porté lui-même par une intention. L'intention de la fin, en l'occurrence, comme je dis, d'aller suivre une conférence. Et donc, il faut partir de l'intention pour juger de la valeur d'un choix. Alors, Jacques Monlion revient un peu sur ce qu'il a dit de l'intention comme n'étant pas sujette à délibération. On a vu comment il fallait le comprendre, hein, mais on peut toujours mettre en question nos intentions, finalement. Dans l'absolu, le médecin peut toujours remettre en question l'intention de guérir. Il peut s'interroger sur le bien qu'il y a à guérir. En général, il peut s'interroger sur le bien qu'il y a à faire la guerre. Et même, nous vivons dans un temps, écrit Jacques de Monléon, où toutes sortes d'intentions autrefois indiscutées sont remises en question. L'amour de la patrie, par exemple. On délibère sur les intentions, mais il y a toujours une intention fondamentale qui, elle, ne peut pas, en fait, ni en droit être mise en question, et c'est le désir du bien ou c'est la volonté d'être heureux, la volonté du bonheur. C'est une seule et même chose. On peut s'interroger sur le bien, mais on ne peut pas ne pas vouloir le bien. Ne pas être orienté vers le bien. Alors, vous pouvez se demander, oui, est-ce qu'il s'agit donc de s'attacher à une notion, la notion universelle de bien, une notion très générale et en étant très générale, vide de contenu? Non. Ce bien, à tous les points de vue, existe. Notre intelligence ne peut pas ne pas se faire une idée d'un tel bien infini sans imperfection. Elle peut se tromper sur la manière d'entendre ce bien, mais les hommes ne peuvent pas ne pas rechercher le bonheur. En fait, ce n'est pas seulement une idée, mais c'est le pôle d'une existence qui est le bonheur, en fait, hein. Tous les hommes désirent être heureux, et tous les hommes ne peuvent pas ne pas désirer être heureux. Le bien, ce n'est pas seulement l'idée de bonheur, mais ça devient le pôle d'une existence. Même si ce pôle peut être défini, caractérisé autrement selon les hommes. Il y en a qui vont aimer la richesse, qui vont penser que le bonheur, c'est la richesse, c'est la prospérité matérielle, ou c'est le bien, ou etc. Ou bien sûr, certains vont dire que le bien, c'est ce que tous appellent Dieu. Mais nous ne savons pas en quoi exactement consiste le bonheur. On peut avoir idée du bonheur, on peut affirmer son existence, mais de quoi s'agit-il exactement? Nous ne le savons pas de la même manière que nous savons la nature de cette table ou la nature des êtres, des objets qui nous entourent. Le bien, bonheur, reste hors des prises de notre intelligence, et finalement Dieu lui-même. Ce que nous avons vu de cette manière, c'est que au fondement de la liberté, il n'y a pas l'indifférence, il n'y a pas la possibilité de rejeter tel bien, mais au contraire, il y a l'attachement au bien. L'attachement au bien, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour est donc fondement de la liberté. Rester indifférent à l'égard d'un bien, ce dont Sartre faisait le fond même de l'existence, c'est rester dans un état contraire à l'amour. La liberté est fondée sur l'amour d'un bien supérieur au moyen choisi. La liberté, elle est fondée sur ce qu'on appelait l'intention, c'est-à-dire sur l'amour d'une fin. Plus l'amour de la fin sera fort, plus le sujet sera fixé dans l'intention, dans l'amour de la fin. Et plus alors, la liberté pourra se développer. C'est-à-dire que, elle sera dans une relative indifférence par rapport aux moyens pour s'attacher plus haut que les moyens à la fin visée. Nous pouvons nous attacher à des fins placées plus ou moins haut dans la hiérarchie des biens. Plus haute, plus éminente sera la fin à laquelle nous nous attachons et plus large, je dirais, serait le champ de notre liberté. Si le bien que je cherche, c'est l'amour de la patrie, eh bien les moyens pour y parvenir sont plus nombreux et ouvrent donc un champ plus large à mon activité que si le bien auquel je vais m'attacher, c'est un verre de cognac, par exemple. Et ce qu'on appelle le bien commun, ben nous l'avons un peu envisagé en parlant de la liberté dans le champ de la cité, en tant même que c'est un bien plus large et plus noble que le bien individuel, ouvre un champ plus large à la liberté des personnes. Mais alors, en ayant dit cela, et c'est la dernière étape du raisonnement de Jacques de Montléon, qu'est-ce que la liberté ajoute à la volonté? Faut même se demander, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que la volonté soit fixée sur le bien sans qu'elle ait la possibilité de s'en détourner? Et Jacques de Molou développe alors, à la fin de son exposé, une réflexion sur la liberté comme qualification de l'amour. Ce qui est premier, c'est l'amour. Mais la liberté ajoute à l'amour, c'est-à-dire à l'intention de la fin, une qualité particulière. Parce que le choix des moyens, appuyé sur l'amour de la fin, va permettre à l'amour, en remontant vers sa source, de gagner en intensité et en qualité. Un exemple simple, faire un cadeau à quelqu'un. Si c'est une personne un peu indifférente, donc je l'aime, mais un peu, comment est-ce qu'on dit quand on enlève à la pâquerette ses pétales, bon,
Un peu. Un peu.
un peu, voilà. Si une personne un peu indifférente, on va lui offrir un cadeau, mais sans se donner beaucoup de mal dans le choix du cadeau. S'il s'agit d'un ami véritable que l'on aime pour lui-même, alors le choix sera beaucoup plus attentif. On s'appliquera à trouver ce qui peut lui faire le plus grand plaisir. Ça suppose que bon, on le connaisse assez, hein, que on soit assez en communion avec lui pour connaître ses goûts et puis pour y accorder de l'importance. Et même, on sera prêt à sacrifier quelque chose dans le choix, hein, on aura voulu le meilleur pour apporter à son ami le plus de plaisir. L'école platonicienne a légué à la tradition philosophique un adage bien connu, selon lequel le bien est diffusif de soi, le bien tend à se diffuser. Or, cette diffusion du bien se fait par amour. Amour, en effet, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Et cette diffusion du bien, elle est plus parfaite quand elle est gratuite, c'est-à-dire que, elle est produite non pas sous la contrainte, mais elle est posée librement. Ce bien communiqué dans la surprise de l'inexigé, rien ne l'exigeait, mais il est donné, comme un pur don de l'amour, donne à cet amour une qualité supplémentaire. C'est la plus parfaite diffusion du bien. Le bien se diffuse de lui-même, mais la manière la plus parfaite qu'il a de se diffuser, c'est dans la gratuité. Ben, c'est justement ce que la liberté, à partir de là qu'on comprend ce que la liberté peut ajouter à l'amour. Alors, le paragraphe qui suit développe un peu de théologie, on ne va pas trop s'y arrêter, hein, mais il dit que Dieu nous sauve d'une manière particulièrement excessive, comme dit la tradition, ce n'est pas le mot rappelé ici par Jacques de Montléon, mais que non seulement il nous sauve, mais qu'il choisit la meilleure façon de le faire par la rédemption. Et donc, la manière même dont il nous sauve nous dit la qualité de son amour. Et autre et dernier exemple, un peu plus compliqué à comprendre, c'est une citation de Proust, hein, un petit garçon, alors c'est assez subtil en fait, hein, un petit garçon dont l'ami part au loin et donc il attend qu'elle lui écrive des lettres. Et chaque soir, il rêve à la lettre qu'elle devrait lui écrire. Et puis, à un moment donné, alors c'est là que ça devient très subtil et très proustien, il s'interdit de penser à la lettre qu'elle devrait lui écrire parce que, ce faisant, il obtiendrait une lettre de son propre cru, de son propre fou, et ce ne serait plus la lettre venant de son ami. Qui le surprendrait justement dans la mesure où lui-même, c'est-à-dire le petit Marcel, n'en serait pas l'auteur. C'est un peu subtil. Mais
C'est
ça
pas faux.
cherche. Pardon.
C'est pas
Mais
faux.
c'est pas faux. Vous parlez d'expérience.
Non, c'est intéressant.
voilà. Il est tout surpris de ce que la liberté peut comporter, un don, une communication de bien, c'est l'amour d'un être, l'amour d'une femme, d'un bien principal, qui inspire la liberté d'une manière gratuite et imprévue. Et vous voyez que cette lettre est le signe de la rédemption que l'humanité n'attendait pas. Vous voyez comment la liberté que nous avons eu l'air de mettre en deuxième position, en ce que elle suivait l'intention du bien, en fait, est comme le sommet des sommets, c'est-à-dire que c'est dans la liberté, au moins au registre de l'existence humaine, je n'en dirais pas de la même manière de Dieu, bon, ça c'est une autre question, mais dans le cas de l'homme, l'acte libre est l'accomplissement de la volonté, parce que l'acte libre donne à la volonté une qualité et une profondeur dans son attachement au bien qu'elle n'aurait pas sans lui, sans l'acte libre. Voilà.
Merci Frédéric. Alors maintenant, c'est le temps des questions ou des commentaires ou des remarques. Vous avez la parole tous.
Vous avez parlé des liens entre amour et liberté. Ça laissait supposer qu'il pouvait y avoir un amour sans liberté, là. Ce serait comme l'amour naturel d'Aristote, ou est-ce que c'est ça que vous sous-entendiez, ou?
Oui, alors j'ai aussi pensé à l'amour que Dieu se porte à lui-même,
Okay.
qui est le cas suprême de l'amour. Et Dieu ne... On peut en discuter, hein, mais Dieu ne choisit pas de s'aimer. Alors, mes exemples sont empruntés à la théologie, quoique, bon, il peut y avoir une théologie naturelle, une théologie philosophique. Les choses s'éclairent aussi quand on pense à ce que la théologie nous dit de l'impeccabilité du Christ ou de l'impeccabilité de Marie. C'est-à-dire que leur liberté étant fixée dans le bien, elle est au-delà de la capacité de choisir le mal.
Ouais. Comme chez les bienheureux aussi, hein, c'est ça.
Voilà, oui, parce que de fait, c'est un cas de... Oui, ils sont
On
comme les
peut,
bienheureux déjà sur
on
Terre.
pourra pas sortir du ciel.
Oui. Donc la liberté pensée comme capacité de choisir ceci ou cela n'est pas le fond de la volonté et de l'amour, mais dans le cas de l'être humain, la liberté... Et l'accomplissement de la volonté de l'amour, même d'ailleurs dans le cas du Christ ou de la Vierge Marie, enfin, dans l'Annonciation ou dans l'agonie, ils sont au-delà de la possibilité de mal agir, parce que leur volonté est vraiment fixée dans le bien, mais ils sont quand même appelés au choix. Donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit, enfin, je pense que hors le cas de Dieu, la liberté est toujours... l'accomplissement de la volonté. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas nous sauver sans nous, quoi. Il nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Il ne veut pas nous se communiquer à nous sans que nous acceptions le don qu'il nous fait de lui-même. Alors là, moi, j'aurais tendance à penser, c'est là que je reviendrai un peu sur ça. Je ne sais pas si tous les thomistes diraient ça, mais il me semble que l'homme est dans sa vie nécessairement soumis à l'épreuve du choix parce que Dieu ne peut se communiquer qu'à celui qui l'accueille librement. Voilà, je dirais quelque chose comme ça. Ou on peut peut-être dire les choses autrement, peut-être que je m'exprime mal, c'est-à-dire que... Bien sûr, Dieu est absolument libre, mais sa liberté n'implique pas nécessairement le choix comme dans le cas de l'être humain. Mais l'amour qu'il a lui-même est un amour absolument libre en ce qu'il n'est absolument pas contraint par rien qui lui soit extérieur. Mais Dieu ne se choisit pas comme s'il avait la possibilité de choisir autrement autre chose que lui-même. Bon, excusez-moi, là je parle peut-être des questions qui sont un peu trop subtiles et balbutiantes. Voilà.
Ouais. Donc, je vous laisse parce que je vais y aller. Ouais. Et du coup, la dame ou pas? La petite, ça allait. Elle tousse beaucoup, hein.
Par rapport à l'homme,
Voilà. Alors, moi, j'aurais une question, peut-être. Frère Gilles, j'aurais une question.
Oui, on vous écoute, Véronique, et puis Dominique en a une autre, oui.
En fait, vous dites que Dieu n'est pas contraint par quoi que ce soit d'extérieur,
Oui.
mais entre, enfin, voilà, mais en fait, ma question est-ce que l'homme, enfin, son idée de l'homme, est-ce qu'en fait, la finalité de Dieu aussi, c'est quand même l'homme?
Donc, est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas été, entre guillemets, un peu, enfin, est-ce qu'il ne s'est pas imposé la création de l'homme? Parce que, alors, sinon, il y avait, ça pouvait être le néant aussi.
Alors,
Et donc, et, enfin, je ne sais pas si ma question est très claire.
c'est-à-dire que si Dieu n'avait pas créé quelque chose d'autre que lui, il serait resté seul, et comme
Oui.
dans le vide, il n'aurait personne à aimer. Alors ça, c'est une question qu'on peut poser, à laquelle on pourrait répondre d'un point de vue purement philosophique, que Dieu doit être tel qu'il se suffit à lui-même, hein, dans une pleine autarcie, sinon il n'est plus un être parfait. Mais en théologie, on dira qu'en fait, Dieu n'est jamais solitaire, ce qu'il est communion de personne en lui-même, et que donc la Trinité nous fait mieux comprendre, elle éclaire l'absolue gratuité de la création. La création n'ajoute rien à son bonheur parce que il le trouve en lui-même, et la révélation nous apprend que il le trouve dans la communion qui unit les
D'accord.
trois personnes. Donc, il est dire que la finalité de Dieu, c'est l'homme, je ne pense pas qu'on puisse le dire de manière absolue. Voilà. Bien sûr,
D'accord.
Dieu se donne comme fin de son agir créateur le bonheur de l'homme, mais il n'était pas contraint de nous créer. C'est un acte absolument, absolument gratuit, mais dans lequel il s'engage tout entier, il engage tout son amour.
Puis, une fois qu'il a choisi de nous créer, il
Okay.
s'oblige en quelque sorte à nous pourvoir de ce dont nous avons besoin, là, on pourrait
Oui.
dire aussi.
Tout à fait. Et dans ce cas-là, comme Véronique l'a bien dit, c'est-à-dire, mais ça n'est pas une contrainte qui lui vient de l'extérieur, mais c'est en raison de ce qu'il est. Et c'est pourquoi la position des nominalistes est insatisfaisante, qui disent que Dieu pourrait faire le mal ou dire le faux. Parce que il entrera en contradiction, non pas avec une norme qui lui est extérieure, mais avec son être même. Il n'est obligé par rien d'autre que ce qu'il est. Il n'y a pas de norme extérieure à Dieu qui contraigne Dieu.
Sinon, il ne
Oui.
serait pas Dieu.
Merci beaucoup.
Il y a
Super.
Jean-Luc et Dominique.
Voilà. Mais sur la liberté de Dieu. Donc, on parle un peu Descartes. Descartes dit que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, et même faire que si le voulait, que 2 et 2 feraient 3. Mais en pratique, 2 et 2, c'est toujours 4. Et les lois de la nature n'ont pas de violation. Donc, est-ce que ce n'est pas une limitation effective de la liberté de Dieu?
Dans la perspective de ce qui les lois de la nature sont un reflet de l'être divin. C'est encore une fois, Dieu ne s'oblige pas en raison d'autres d'une réalité qui lui serait extérieure, mais les lois de la nature, l'ordre de la nature sont un reflet de la perfection divine elle-même. C'est Dieu. Alors Thomas dit en fait, il a donné à la nature des lois qui sont reflets de sa perfection, mais Dieu peut lui-même s'exempter des lois de la nature. C'est le cas du miracle. Et quand il le fait, il ne le fait pas de façon arbitraire, mais c'est justement pour montrer la liberté de l'acte créateur et de l'acte sauveur. C'est-à-dire que, et à travers le miracle, lorsqu'il agit hors des lois de la nature qu'il a lui-même posées, il montre son. Que ce qu'il donne, il l'a donné de manière absolument libre. Et le miracle des miracles, c'est l'incarnation, dirait Thomas, et donc tous les miracles sont donnés pour être des signes qui orientent l'intelligence du genre humain vers ce miracle suprême qui est celui du Dieu fait homme. Voilà, donc chez Thomas, il y a une pensée donc de l'ordre de nature comme reflet de la bonté divine, une affirmation que Dieu peut s'exempter lui-même de l'ordre de la nature pour le bien de l'homme et surtout pour lui manifester la gratuité de son amour.
Ouais. Mais moi, la question me faisait penser à l'objection que saint Thomas rapporte là, quand il parle de la toute-puissance de Dieu. Puis des gens disent, mais si Dieu ne peut pas faire que deux et deux ne font pas quatre, il serait pas tout-puissant. Puis là, on a la réponse quand même de saint Thomas là, qui dit, il peut tout faire ce qui est de l'être, mais le non-être, la contradiction, c'est pas une limitation vraiment à la puissance de Dieu, mais c'est que c'est comme c'est du non-être, ben parce qu'il me semble qu'il y avait de ça dans la question du monsieur, là. Ouais.
Oui. Il n'est pas limité par le non-être. Oui. Il n'est pas limité lorsqu'il ne peut pas faire le non-être. Ce
Il peut
n'est
tout
pas.
faire ce qui a de la consistance, là, mais.
Oui. Mais ça revient un peu à ce que je disais il agit toujours en conformité à ce qu'il est, mais il est l'être même. Quoi. Donc,
Ouais.
voilà.
Dominique avait une question tout à l'heure.
Quand vous dites que Dieu, par rapport à lui-même, à sa nature, à sa vie de Dieu, sans que l'homme existe encore, ne pose pas d'acte libre, il est amour, trinité, et c'est comme ça. Donc la première question, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas de gratuité. Et puis, ben, la gratuité, ça vient d'un acte libre. Et puis deuxièmement, quand il crée l'homme, est-ce que là, il y a bien un acte libre et gratuit? Et quand il choisit la rédemption au lieu d'autre chose, il y a aussi un acte libre et gratuit.
Dieu ne choisit pas de n'être pas et d'être, il ne choisit pas d'être ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas libre dans son être, libre au sens où rien d'extérieur à lui-même ne le contraint à être ce qu'il est ou à faire ce qu'il fait. Donc il est absolument libre en ce sens que son agir est toujours spontané. Et même l'amour qui lie les personnes divines entre elles, elles ne s'aiment pas pour un autre motif que ce qu'elles sont. Mais bien sûr, en revanche, Dieu crée de façon tout à fait libre et nous sauve de manière tout à fait gratuite.
J'avais une question qui n'est pas au cœur, mais qui est venue à l'esprit, c'est la question que pose le Trois Canons de l'erreur invincible, qui m'a fait penser à ça. C'est ce que quand vous disiez que tout ce que la diligence peut présenter à la volonté comme bon peut faire l'objet d'un consentement, d'un choix. Et comment penser ce que le Trois Canons appelle l'erreur invincible? C'est-à-dire que la diligence n'arrive pas à avoir. Que le bien qu'elle se propose est un mal.
Oui. Ben, donc c'est pas d'abord une. Ben, je ne sais pas si c'est une notion qui appartient d'abord aux canonistes. Hein. En tout cas, c'est une notion importante en morale. L'homme est toujours obligé de choisir ce que, en conscience, il estime être tenu de choisir, je dirais, hein, parce qu'il peut choisir entre différents biens, hein, il n'est pas, mais il doit se détourner de ce qu'en conscience il considère comme un mal, disons. Mais parfois, effectivement, il n'a pas les moyens de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ce cas, alors ça, c'est un débat entre les maîtres du Moyen Âge, mais la position de Thomas, devenue la position commune, c'est que l'homme est obligé de suivre sa conscience. Sinon, il pêche. C'est-à-dire que ce que sa conscience lui présente comme un bien, Même si objectivement c'est un mal, l'homme est obligé de le suivre. Ce qui ne veut pas dire que on soit pas tenu parfois de contraindre un homme de ne pas faire ce que, en conscience, il exige devoir faire. Un terroriste peut s'estimer en conscience obligé de tuer des innocents. Hein. Dans la position de Thomas, il doit suivre sa conscience. Mais ça ne veut pas dire que dans ce cas, on ne doit pas l'empêcher de suivre sa conscience. Je ne sais pas si je suis. Ça complexifie un
C'est
petit
le
peu.
cas d'une conscience mal formée, mal
Oui.
informée ou...
Alors, de fait, la conscience invincible n'exempte pas de la responsabilité. C'est-à-dire que je suis tenu de suivre ce que me dit la conscience, mais j'ai l'obligation de former ma conscience. Hein, c'est-à-dire que si je n'ai pas pris les moyens de m'éclairer sur ce qui était bien, si je pense que telle chose mauvaise est un bien, je suis tenu de faire ce que j'estime être bien, mais je suis responsable de mon erreur. Alors, c'est là que l'erreur invincible dit, sauf erreur de ma part, que justement, une erreur invincible, c'est une erreur que je n'ai pas les moyens d'éviter. On peut croire, par exemple, que dans certaines situations, puisque c'est plutôt dans un contexte religieux qu'on y réfléchit, je sais pas, on aura une vision très, très négative de la foi chrétienne en raison du comportement des chrétiens, et que, il y aura impossibilité de reconnaître, dans ce cas, la vérité de l'Évangile. Par exemple, ça, c'est un cas de, je pense, d'erreur invincible qui, exempte de la faute qu'il y aurait à ne pas reconnaître la vérité de l'Évangile, par exemple. Y aura des cas. Moi, je pense que c'est comme ça que je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui, moi je pense
Peut-être
que
la force de la coutume aussi, hein, qui peut.
oui, la force de la coutume, oui. Qui peut, voilà, rendre impossible ce qui serait objectivement le bon choix.
Alors, il y avait d'autres questions. Très basique en revenant tout à fait. On avait compris ce qui entendait par indifférence de la volonté.
Signe à toi, c'est qu'il y a possibilité de se porter vers une chose ou une autre. Et donc, la volonté reste libre de choisir ceci ou de choisir cela. Alors, l'indifférence, là, il y a indifférence, mais l'indifférence, elle peut être absolue ou pas absolue. C'est-à-dire que l'indifférence peut être grande, voire totale. Hein, prendre le métro ou y aller en voiture, c'est vraiment kiff-kiff. Hein, donc là, c'est un cas d'indifférence. Voilà, tu choisis, voilà, ça c'est le cas d'indifférence. Mais il y a des. Bon, ensuite, bon, ça, je préférerais, mais après tout, ça ne fait pas grand-chose de choisir d'autres moyens. Il y a aussi le thème de l'indifférence en spiritualité, notamment en spiritualité ignatienne, dans les exercices, où en fait, on doit se rendre indifférent à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et dans cet état d'indifférence, on est plus lucide sur le choix qu'on doit poser. Mais l'indifférence n'est jamais quelque chose qui est voulu pour soi-même et définitivement, c'est plutôt juste l'ordre du passage. Donc l'indifférence de la volonté, c'est ce qui permet le choix. D'où le problème philosophique hein, qui est, mais finalement, qu'est-ce qui va permettre de comprendre le choix. Si la raison, s'il y a indifférence, qu'est-ce qui va permettre de comprendre le choix? Eh bien, la réponse de Jacques de Monléon, traditionnelle, c'est que ce qui permet de comprendre le choix, c'est d'abord l'intention de la fin. Et puis ensuite, le choix, bon, on peut, quand la finalité est déterminée, ben, il y a différents moyens de la rejoindre. Quel est le meilleur moyen pour moi dans telle situation d'accéder à la fin qui est la mienne? Là, il faut que je réfléchisse, il faut que je délibère, il faut que j'en parle aux autres. Et puis, j'ai moi-même pu développer ma capacité de discernement pour choisir le meilleur moyen. Et c'est ce que Thomas appelle la vertu de prudence, la vertu de discernement, qui est une façon de réfléchir à toutes les possibilités et de m'efforcer de choisir la meilleure. Voilà, donc l'indifférence de la volonté, c'est la latitude qui est la sienne dans le choix des moyens. Voilà. Mais elle est toujours orientée vers le bien en tant que telle, et on peut dire aussi que le bien en tant que tel, elle ne sait jamais exactement ce que c'est, et elle peut, à partir de là, à partir de cette connaissance limitée du bien, elle peut identifier le bien avec des réalités différentes. Hein, comme je l'ai dit, on peut identifier le bien comme tel, c'est-à-dire le bonheur, aux richesses, à l'honneur, à je ne sais pas. Et à ce moment-là, toute notre vie s'oriente, prend une orientation fondamentale, hein, et les choix que je vais poser seront conditionnés par l'orientation fondamentale que j'ai fait prendre à mon existence.
Vous avez utilisé le mot intention pour parler de la volonté de la fin. Là. Dans la traduction de Tricot d'Aristote, il parle du souhait. Je ne pense pas que ce soit le meilleur mot non plus, mais je ne sais pas, le mot intention, c'est parce qu'on peut avoir l'intention aussi d'un moyen. Ce n'est pas un mot qui nous oriente nécessairement vers la volonté de la fin.
Ben, c'est-à-dire que il y a intention lorsque une chose est voulue. Et le moyen, une fois qu'il est voulu, il y a effectivement intention du moyen. Mais,
ouais, c'est ça.
Mais voilà, avant que je ne choisisse le moyen, ben, il y a indétermination, quoi, hein, de l'objet
ouais.
De la volonté.
Je veux la fin, mais c'est peut-être le mot volonté au sens d'un acte, là, pas de la faculté, peut convenir, je sais pas.
Ben oui, mais enfin, c'est-à-dire que voilà, on va distinguer différents actes de la volonté. Il y a l'intention, il y a le choix, il y a le fait de se complaire dans un bien qu'on possède. Il y a, voilà, c'est une façon de distinguer entre différents actes de la volonté.
L'étymologie du bien. L'étymologie d'intention est quand même éclairant. Ben, c'est ce que voilà. Être tendu.
Suite à ce que vous avez dit, je pense à la réflexion de saint Thomas que même Dieu, en cette vie, pour nous, même s'il est en soi le bien parfait, tout ça, ne peut nous apparaître que comme un bien fini et limité. Si vous pouvez développer là-dessus, mais je trouve que ça prolongerait bien vos réflexions.
Oui, c'est-à-dire que tout homme désire être heureux, mais tout homme ne désire pas Dieu. Et donc, Dieu peut nous apparaître comme n'étant pas ce qui est le plus désirable. Pour qu'il nous apparaisse comme désirable, il faut que nous le cherchions et que d'une certaine manière, enfin, Dieu veut être choisi. Dieu veut être choisi. Et ce choix, il s'opère dans un effort de discernement. Progressivement, nous sommes affermis dans le voilà le, le désir que nous avons de Dieu. Donc nous devons en ce sens-là, oui, nous le choisissons, mais nous devons parfois le rechoisir. Enfin, je ne sais pas, Louis, j'ai peut-être des choses plus claires à dire que ce que j'essaye de
Ben, c'est
balbutier là.
qu'il y a toujours en cette vie comme des aspects qui peuvent sembler négatifs là, dans le fait de suivre
Oui.
Dieu. Il faut renoncer à certains plaisirs, renoncer
Il y a un philosophe phénoménologue, Max Scheler, qui faisait remarquer que plus les valeurs sont hautes, nobles, moins elles sont immédiates d'une certaine manière. Donc, effectivement, il peut nous, enfin, une réalité qui est toute proche, très attirante, peut nous solliciter davantage que la réalité même de Dieu. Ça ne signifie pas que la réalité de Dieu ne soit pas infiniment supérieure à cette réalité plus proche et immédiate, mais voilà, moi je vis dans l'immédiat, dans le temps,
C'est ça.
Donc il y a un effort à fournir. Pour discerner et pour faire grandir en moi l'amour de Dieu.
Vous pouvez penser à cette anecdote où d'un de nos aumôniers, quand j'étais étudiante, à qui un étudiant dit « Moi, je ne crois pas en Dieu. » Et l'aumônier lui répond « Explique-moi un peu à quel Dieu tu ne crois pas. » L'étudiant fait un portrait de Dieu épouvantable et l'aumônier lui dit « À la bonne heure, à ce Dieu-là, moi non plus, je ne crois pas. C'est un faux Dieu. Est-ce que tu veux maintenant que je te parle du Dieu auquel je crois ?» Il me semble que c'est une manière de ramener aussi, de dessiner un chemin quand ce que vous disiez tout à l'heure, on ne voit pas que Dieu est un bien et un bonheur. Ne pas laisser l'autre se laisser prendre à sa représentation et au décalage avec la réalité. C'est bien le contraire.
Je crois qu'on va pouvoir arrêter. Merci frère Gilles, merci à tous ceux qui ont participé. Et je coupe le son.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup.
Donc le prochain rendez-vous, c'est le 23 mai pour la conférence Éduquer à la liberté par Louis Brunet.
Très bien.
Je vous
Bientôt.
remercie.
Pas hésiter à faire de la publicité en partie.